que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comment préserver la biodiversité dans une réserve naturelle? On en parle avec Jean-Pierre Béadib, expert en environnement. On le disait, vous êtes intéressé par le sujet. Appelez-nous au 081-890-6394 ou faites-nous parvenir un SMS au 081-711-5001. La RDC regorge plusieurs réserves naturelles riches en biodiversité. Cependant, certaines activités pratiquées dans ces aires protégées entraînent la diminution des espèces animales et végétales, ce qui constitue une véritable menace pour l'environnement. Alors, il faut préserver la biodiversité dans une réserve naturelle. On va découvrir avec notre invité comment préserver cette biodiversité dans une réserve naturelle. La première question qui nous vient à l'esprit, Jean-Pierre Béadiboué, qu'est-ce qu'on entend par biodiversité?
Oui, la biodiversité, on peut renverser, hein, c'est la diversité biologique, pour être très clair. C'est-à-dire que la diversité des espèces naturelles, même l'homme aussi fait partie de la biodiversité, hein. Tout ce qui est la diversité de vie dans la nature, naturellement, ça s'appelle la biodiversité. Donc c'est la diversité biologique des espèces vivantes.
C'est-à-dire il y a les espèces animales, il y a les animaux, il y a les forêts, il y a les arbres, il y a tout ça.
Oui, quand je dis les êtres vivants, c'est-à-dire que c'est, les êtres vivants, ce sont les animaux, et ce sont les plantes, ce sont les bactéries, les parasites, et tout ça sont souvent partie des êtres vivants, dont nous-mêmes, si nous sommes, sommes de la catégorie des animaux, donc nous sommes des êtres vivants.
Donc il s'agit de la diversité naturelle qu'on trouve dans l'environnement.
Dans l'environnement, oui. Voilà, oui. Voilà. Il faudrait parler plutôt dans les écosystèmes.
Écosystème, c'est-à-dire
Un écosystème, c'est un ensemble constitué des êtres vivants, qu'on appelle la biocénose, et dans le milieu dans lequel ils vivent, c'est-à-dire les biotopes. Exemple, un écosystème marin est constitué de poissons, des algues, dans l'eau. Un écosystème forestier est constitué de tous les animaux qui vivent dans la forêt. Donc l'écosystème est un ensemble complexe constitué des êtres vivants dans leur milieu naturel.
Oui. Alors, c'est quoi les dangers lorsque la biodiversité, on ne sait pas préserver la biodiversité, c'est quoi les dangers?
En fait, naturellement, la biodiversité, c'est ce qui fait l'équilibre de l'environnement. Donc, tous les êtres vivants ont une certaine importance dans la vie, dans l'environnement. Lorsque un être vivant disparaît, par exemple, il peut y avoir un déséquilibre. Parce que tous ces êtres vivants dépendent les uns des autres par ce qu'on appelle la chaîne trophique, c'est-à-dire la chaîne alimentaire. Si vous permettez, je peux un peu détailler un peu. La chaîne alimentaire, c'est quoi? C'est vous avez des composantes, les producteurs, c'est-à-dire que ceux qui vivent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont les plantes qu'on appelle autotrophes. Alors, ils absorbent l'énergie solaire avec le CO2, ils forment les hydrates de carbone et ils synthétisent des substances dont ils ont besoin eux-mêmes. Après les autotrophes qui sont les plantes, vous avez les herbivores qui mangent les plantes. Après les herbivores, vous avez les carnivores qui mangent les herbivores. Et parmi les carnivores, vous avez les prédateurs comme des lions. Alors maintenant, l'homme, dans tout cela, il est où? L'homme, il est omnivore, il mange l'herbe, il mange aussi la viande. Vous voyez, c'est toute une chaîne que nous appelons chaîne trophique en écologie. C'est-à-dire que lorsque dans une chaîne, un être vivant disparaît, et cette chaîne peut causer beaucoup de problèmes. Imaginez par exemple que dans la chaîne alimentaire, il y a disparition de l'herbe. Alors, mais comment les herbivores vont manger, vont vivre? Mais comment ceux qui mangent les herbivores, comment ils peuvent vivre? Parce que quelque part, le maillot de la chaîne est coupé. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc, ce principe de chaîne alimentaire est la base même de la biodiversité. Lorsque dans une chaîne alimentaire, un maillon est coupé, il y a des déséquilibres, soit prolifération d'une espèce, soit élimination d'une espèce.
Voilà. On comprend que dans la biodiversité, il y a cette espèce d'interdépendance.
Il y a l'interdépendance des espèces. Chaque espèce a une importance et chaque espèce dépend des autres. Et je vais vous donner un exemple très simple.
Allez-y.
Dans la forêt, par exemple, vous avez, dans la forêt, il y a les éléphants qui se nourrissent de plantes. Mais il y a certaines plantes, pour que ça repousse, il faut que leurs graines passent à travers le ventre de l'éléphant. Vous voyez, si l'éléphant disparaît, donc cette plante va disparaître naturellement. Donc, il y a dans la biodiversité cette chaîne alimentaire qui est liée. Et lorsque un maillot de chaîne alimentaire est coupé, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que vous trouverez d'autres espèces qui sont très nombreuses et d'autres, vous parfois, vous trouverez d'autres espèces qui ont diminué. Parce que la chaîne alimentaire est coupée quelque part.
Donc, on comprend qu'il faut absolument préserver cette biodiversité pour même la survie même. De certaines espèces même de l'humanité, il faut
préserver la biodiversité. Maintenant, nous sommes au niveau de préservation. Naturellement, dans la nature, quand je dis naturellement, dans l'environnement, s'il faut parler en termes bibliques, comme Dieu a créé le monde, il y a tellement cet équilibre-là. Bon, si vous allez vous remettre au jardin d'Éden, cet équilibre était atteint, s'il faut dire ainsi. Il y a l'équilibre dans la nature. Mais lorsque l'homme intervient dans cette nature pour déséquilibrer la nature en coupant les arbres, en éliminant certaines espèces, c'est là où se pose maintenant le problème du déséquilibre. Puisque le déséquilibre, maintenant on songe, maintenant on pense à la préservation. Donc là, il doit y avoir, on s'est rendu compte qu'il y a des déséquilibres. Donc il faut penser au mécanisme de la préservation de l'environnement ou des espèces.
Voilà, on allait même en venir, vous avez déjà anticipé en parlant de l'exploitation des forêts, parce que ça constitue une véritable menace pour la biodiversité. Alors, comment ça doit se passer? Parce qu'il y a des activités qui sont pratiquées au quotidien. Il y a par exemple de paysans qui ont besoin de couper la coupe de bois, le bois de chauffe pour survivre. Il y a également, surtout, l'exploitation également industrielle du bois et tout ça, ça cause problème. Et comment harmoniser tout cela de manière à ce qu'il n'y ait pas de menace pour la biodiversité?
Avant de répondre à cette question, il faudrait comprendre que la forêt, c'est un écosystème. Alors, c'est un écosystème dans lequel se trouvent les êtres vivants, dont les plantes, dont on fait souvent allusion. Parce que quand on parle de la forêt, on pense souvent aux plantes. On oublie que dans la forêt, il y a d'autres, des animaux, par exemple, des lions, des animaux sauvages. Et puis, il y a même des chenilles, il y a des papillons. Et tous ces animaux, tous ces êtres vivants-là qui se trouvent dans la forêt constituent un écosystème qui doit être en équilibre, Mais dès lors qu'un exploitant forestier vient couper les arbres, vous imaginez que sur cet arbre, il y avait des papillons qui produisaient les chenilles. Et les chenilles vont disparaître. Prenons un cas très simple. Au Kassai, par exemple, on parle de Mansamba. C'est une chenille très bien connue, très bien consommée. Mais lorsque cet arbre qui produit les chenilles disparaît. Donc les chenilles vont disparaître automatiquement. Alors vous comprenez donc, c'est des problèmes qu'il faut gérer. Dès lors que vous constatez qu'il y a disparition de certaines espèces qui peuvent causer des déséquilibres sur l'environnement, il faut les protéger.
Et comment le faire? Parce que des fois, c'est pas toujours évident. On a cité le cas de paysans qui ont besoin, par exemple, de couper les arbres pour avoir le bois de chauffe. Comment ils doivent faire alors?
Non, disons que ça, c'est un paysan qui a besoin de bois de chauffe. Ça. Il doit se planter quand même sa forêt. Les bois de chauffe, c'est souvent des bois morts. Ce n'est pas les bois vivants comme tels.
Et
un pauvre paysan qui prend une branche d'arbre morte pour aller chauffer sa nourriture, il n'a rien fait de mal. C'est ça.
Mais pas également de la coupe intensive. Pour fabriquer la braise pour vendre dans de grandes villes, faire beaucoup d'argent, il y a cette coupe intensive également.
Oui, il y a la coupe. On peut couper. Si on sait apprendre à ces paysans comment couper un arbre pour que cet arbre se régénère après un bout de temps, mais je crois que c'est intéressant. On peut apprendre à ces paysans, voilà, ne coupez pas cet arbre à ce niveau. Si vous le coupez à tel niveau, ça peut régénérer. C'est tout ce qu'on peut le dire. Interdire à un paysan de ne plus faire la braise et de ne plus consommer de bois mort, mais je crois que c'est trop lui demander. Vous imaginez un paysan ou un pygmée qui vend dans sa forêt, dans son écosystème, une vigue de la forêt. Lui interdire, ça c'est trop lui demander. Mais plutôt, il faut apprendre à ces gens comment gérer la forêt, comment on peut couper l'arbre pour permettre à cet arbre de régénérer, pour ne pas perdre des espèces.
Comment préserver la biodiversité dans une réserve naturelle? C'est le sujet abordé par au cours de cette émission avec Jean-Pierre Béadibo, l'expert en environnement. Vous êtes intéressé par le sujet, vous avez des préoccupations, des questions, appelez-nous au 081-890-6394 ou faites-nous un SMS au 081-711-5001. Notre invité est là pour répondre à vos questions et préoccupations.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Nous avons Marc Gallo qui est à Kinshasa, Freddy Kabamba est à Lubumbashi dans la province du Katanga, Neville Kumonga est à Kananga dans le Kasai Occidental. On commence donc avec Omar Kigallo ici à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour Marcel Mbombo et bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute Omar.
Merci Marcel, je vous remercie une fois de plus parce que vous traitez encore d'un sujet qui traite de l'environnement. Comme on l'a dit la fois dernière, que l'environnement est un cadre de vie, une source de revenus, voire même un réceptacle de revenus. Il est donc important, voire indispensable pour la vie humaine. Alors, moi j'ai toujours déploré une chose, c'est qu'il existe un non-respect des lois dans notre pays. Monsieur Marcel, en commençant au niveau international, même au niveau interne, il existe bel et bien des textes qui protègent l'environnement. Je peux citer en passant la Constitution, en son article 53, qui dit que le droit à l'environnement est sacré. Et deux, le code forestier qui interdit les déboisements abusifs et que sais-je. Mais si aujourd'hui nous déplorons la pollution de l'environnement, c'est que ces lois ne sont pas respectées. Il y a d'abord l'État qui ne fait pas le suivi sérieux. Des deux, les individus exploitants qui ne respectent pas. Mais moi je pense qu'une autre des causes, c'est que ces lois environnementales ne sont pas promulguées. Voilà pourquoi je voudrais une fois de plus féliciter la Radio Capi pour ce travail. Je passe directement à mes questions. Alors, il semble que parmi les activités qui polluent l'environnement, il y a les déboisements abusifs. J'ai lu un ouvrage qui dit que le déboisement n'est pas mauvais, mais il devient mauvais lorsqu'il est abusif. Alors, je voudrais que l'invité me dise quand est-ce qu'un déboisement est abusif, parce que nos lois permettent aux gens de déboiser. Mais quand est-ce qu'un déboisement devient abusif? Et deux, l'invité a dit qu'il est interdit aujourd'hui de déboiser pour faire le charbon. Alors, la quasi-totalité de la population congolaise utilise le charbon pour préparer. Si on n'utilise plus le charbon, qu'est-ce qu'ils nous proposent à la place pour, n'est-ce pas, préparer? Parce que tout le monde sait que les courants électriques posent problème. Le seul moyen que nous avons, c'est les charbons. Mais les environnementalistes disent non, il ne faut pas boiser, il ne faut pas faire les charbons. Qu'est-ce qu'ils proposent à contrario? Et pour finir, j'ai lu la fois dernière une revue qui dit que lorsque les voitures roulent et qu'ils dégagent les gaz, c'est aussi toxique à l'environnement. Oui. Est-ce que l'invité peut-il confirmer que les gaz oxygène dégagés par les voitures ont-ils aussi des effets néfastes à l'environnement? Voici ma contribution et mes préoccupations. Marcel, je vous remercie.
Merci Omar Kigallo. L'invité va vous répondre tout à l'heure. Il est temps pour nous d'accueillir Freddy Kabamba depuis le Lubumbashi dans le Katanga. Freddy, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Marcel et notre invité.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Freddy, allez-y.
Je vais demander à notre invité comment on peut conseiller les paysans qui coupent les palmiers pour fabriquer l'alcool. Souvent, les palmiers nous aident beaucoup. Mais vous trouvez, les paysans sont en train de couper. Même ici en ville, si on passe, il trouve peut-être une personne dans sa parcelle, il y a 4 palmiers, il va couper peut-être 2 pour dire que non, que je fabrique l'alcool à boire. Bon, un instant, il va commencer à pleurer. J'ai fait le mal pour couper les palmiers là. Comment on peut conseiller ces personnes-là? Merci beaucoup.
Merci, Freddy Kabamba. Neville Kuminga, Itakenanga, dans le Kasai Occidental. Bonjour, Neville.
Bonjour.
Vous avez la parole, Neville.
Oui, je voudrais d'abord commencer par remercier Radio Capi pour le sujet aussi délicat et très important. Vous savez, la biodiversité ou l'écosystème en général, c'est vraiment des sujets à la une. Vous savez qu'il y a des pays qui sont des grands pollueurs de notre atmosphère. Il y a des grandes conférences qui se tiennent pour les réchauffements de la planète, etc. Et puis, c'est vraiment des choses qui sont à la une. Mais je voudrais commencer par circonscrire les débats par rapport à notre pays. Vous savez que notre pays a des sérieux problèmes. Il y a d'abord un problème de sensibilisation Vous avez vu qu'au début d'entrée de jeu, j'ai commencé par vous remercier parce que c'est des sujets qui ne sont pas de temps en temps abordés, même par des conférences, débats, etc. Alors, vous voyez que nous sommes butés à des sérieuses difficultés. Mais, tout en martelant aussi, c'est que mon ami venait de dire, mon prédécesseur, qui a posé la question par rapport à la braise. Vous voyez là, ici, la quasi-totalité de la population ne vit que de la braise pour chauffer la nourriture, etc. Mais leur demander de ne pas utiliser la braise, vraiment, c'est trop demander et c'est être aussi à la fois contre la vie. Alors, quels sont, ma première question est la suivante, quelles sont les techniques de vulgarisation, hein, ou alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour remplacer les bois de chauffe à autre chose? Parce que nous savons bien que il y a une relation étroite entre la forêt et l'homme, et même les animaux aussi. Alors, nous avons vu même dans nos villages que les animaux sont allés un peu plus loin, hein, vous comprenez, plus loin du village, parce que de temps en temps, quand on fait des champs là-bas, etc., donc les animaux ne sont plus tellement visibles sur la ville et même dans nos villages. Alors, quelles sont les techniques de substitution par rapport au bois de chauffe et à la braise? Voilà ma préoccupation. Et puis, je voudrais aussi savoir, je ne sais pas si vous êtes encore là avec moi.
On vous écoute.
Oui, c'est quelles sont les techniques de vulgarisation et de conscientisation c'est la sensibilisation de ces sujets ici. Quelles sont les différentes techniques à part la radio? Voilà ce que je voulais poser comme question, monsieur.
Merci Neville à vous appeler donc de Kananga dans le Cas occidental. On va se rendre à Bandundu-Vi dans la province du Bandundu pour retrouver Malonga. Malonga, bonjour. Bonjour Malonga. Malonga, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Malonga.
Ok. Bon, en tout cas, je vous salue d'abord et je salue l'invité qui est là.
Allez-y.
Bon, moi, je vais me référer de l'ordre du vin. Puisque Dieu nous a donné l'ordre de cultiver la terre. Or, c'est sur la terre où il y a la forêt, où il y a tout ce qu'on dit, c'est la
biodiversité.
Et la vie humaine. Mmh. Bon, quelle sorte de culture qu'on peut utiliser sans pour autant endommager la forêt? Puisque les animaux usent de la forêt et de l'humanité. Nous, les hommes aussi, il faut que nous cultivions aussi la forêt. Mais en cultivant la forêt, on nous accuse que nous faisons mal. Alors, quelle forme de culture, quel invité peut nous orienter en fait que nous abondons pour ne pas endommager la nature? C'est ce que je veux dire, je veux demander.
Merci Malonga. On va rester toujours dans la ville de Bandundu, dans la province du Bandundu pour aller du côté de Kikwit où il y a Ogi Bendelo qui nous appelle de Kikwit. Ogi, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute Ogi.
Oui, bon, j'ai voulu poser la question à l'invité par rapport à la conservation de la nature, effectivement, de l'environnement. Bon, parce qu'on a vu la fois passée sur TV, surtout nos confrères qui sont à l'Est. À cause du ravage de la guerre, les enfants n'étudient plus, ne s'occupent plus de leurs fonctions, mais ils se sont lancés à couper des arbres, même dans des parcs nationaux qui sont à ces côtés-là, pour se nourrir de la braise. Alors j'ai voulu poser la question à l'invité, tel que nos confrères qui sont à l'Est, à cause des ravages de guerre, ils sont en train d'abîmer la nature, donc l'environnement, les forêts en train de déboiser abusivement et à cause de ces ravages-là. Alors, je pose la question à l'invité. Doit-on mettre fin, cette question, je la pose par rapport à nos confrères qui sont à l'aise. Doit-on mettre d'abord fin au ravage de la guerre ou bien ils doivent conserver la nature?
Merci, Ogi Bendelo. Mavé Kisambika, Itakenanga, dans le Cas occidental. Mavé, bonjour.
Bonjour, Marcel. Bonjour à tous les auditeurs qui me suivent en ce moment.
Allez-y, on vous écoute, Mavé.
Merci bien, Marcel. J'avais une petite question à poser à notre invité. Je constate qu'il y a plusieurs parcelles qui ont d'arbres, ici, tant d'autres de fleurs, dans la cour d'une parcelle. Nous remarquons qu'il y a aussi un déclenchement à force de plusieurs fleurs ou de plantes dans la parcelle, de planchement des insectes, notamment le moustique et tant d'autres insectes qui peuvent nuire la vie d'une personne. Je voudrais demander à l'expert en environnement de nous proposer des mécanismes de prévention pour évacuer des fois s'il y a des insectes qui poursuivent l'ombrage ou soit des fois les arbres qui sont plantés dans la parcelle, puisque ça dérange aussi la santé. Ils peuvent nous donner des mécanismes, soit des substances qu'on peut appliquer pour séparer ces insectes de fleurs ou de plantes dans la parcelle pour épargner la vue humaine. Voilà.
Merci à Mavéki Sambika. Nous rappelons que vous appelez du Kananga dans le Kasaï occidental. On va tenter, l'invité va répondre à toute cette vague de questions, des préoccupations qui sont venues presque de partout. On va commencer avec Omar Kigalo qui a appelé des Kinshasa. Oui. Et sa question, il voulait savoir, il a parlé notamment du charbon, hein, qui est presque tous sont revenus par rapport à ça, parce que les gens doivent absolument vivre. Qu'est-ce que vous commentez par rapport à ça? D'abord, l'exploitation même du bois pour fabriquer de la braise.
Oui, la plupart des auditeurs ont parlé de quelque chose de commun, c'est oui. Les problèmes de bois. Oui. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut interdire les gens de ne pas utiliser le charbon.
Oui.
Au fait, le bois, le charbon ou la braise, ce sont des ressources énergétiques polluantes. Hein. Ils polluent. D'accord. Mais maintenant, si nous mettons, par exemple, vous interdisez aux gens de ne pas utiliser la braise, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser? Moi, je n'ai pas dit qu'ils ne font pas utiliser. Au contraire, on peut utiliser d'une manière rationnelle le bois en apprenant des techniques de coupure de bois et pour permettre à ces bois d'être régénérés. Il faut encadrer le paysan. Comment couper les bois de façon à ce que ces bois se régénèrent à un moment donné. Parce qu'il y a d'autres coupures, telles que quand vous les faites, l'espèce peut disparaître. Et alors, quelle est la solution à ces problèmes? Il y a un ami de Kivu, du côté de l'Est, qui a parlé qu'à cause de la guerre, les gens commencent à exploiter le bois d'une manière non correcte. Mais pour arrêter cette leçon, il faut arrêter la guerre. Si la guerre s'arrête, les gens ne vont pas se lancer à exploiter d'une manière anarchique les bois. Et l'autre solution, c'est qu'il faut électrifier les cités. L'énergie électrique, c'est une énergie renouvelable propre. Si aujourd'hui la SNEL nous donne suffisamment la quantité nécessaire d'électricité, on ne va pas utiliser les bois. Donc ça fera une façon de gérer aussi et l'environnement, ne pas utiliser beaucoup de bois et d'utiliser la braise. Donc, je crois que la solution, c'est arrêter la guerre ou bien donner suffisamment l'énergie propre, renouvelable. C'est comme on peut utiliser les énergies éoliennes et l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique que nous avons dans notre pays. Si la SNEL arrive à distribuer correctement cette énergie, les gens vont utiliser de plus en plus moins les bois. C'est ça. C'est ce qu'il faut comme solution à ces problèmes-là. Donc, alors, je voulais enchaîner pour dire à l'ami qui a parlé de c'est Freddy hein, qui a parlé de CO2 qui sort de effectivement nos voitures quand ils roulent ils émettent les gaz, le CO2, c'est plus principalement le CO, mais le CO2 c'est un gaz qui sort aussi des tuyaux d'échappement, mais ce gaz est très toxique, il est responsable des effets de serre, de la pollution dont on fait, du changement climatique dont on fait allusion à tout moment. Quand le CO2 sort de gaz, des tuyaux d'échappement, non seulement il est responsable du changement climatique, il intoxique aussi notre vie avec l'irritation des yeux et d'autres problèmes liés à la santé de l'environnement.
Et Freddy voulait également savoir par rapport à ces personnes qui coupent les palmiers.
Ah oui, ça c'est notre problème. Les palmiers, c'est une plante... ils ne font pas justement, quand vous êtes dans votre parcelle, ils ne font pas couper anarchiquement les plantes. Les plantes vous donnent l'oxygène, les plantes vous donnent beaucoup d'ombre pour se reposer. Mais quand vous coupez les palmiers pour avoir le vin, il a parlé de vin, c'est le vin de palme.
Le vin de palme.
Mais c'est un désordre. Souvent, dans certains quartiers, il y a les services de l'environnement qui surveillent, les plantes. Moi, j'habite l'université. Chaque fois qu'il y a une plante coupée, il faut l'autorisation de l'autorité de l'université pour couper une plante ou couper un arbre. Donc couper un palmier pour avoir du vin, je crois que c'est pas normal.
On va revenir, Jean-Pierre Béadi, vous êtes expert en environnement, on va revenir pour répondre aux questions, des préoccupations des éditeurs, mais il y a déjà d'autres qui sont en ligne, on va éviter qu'ils s'impatientent, on va les avoir. On commence avec Jadot.
Attendez, Marcel, parce qu'il a parlé de vulgarisation.
On va revenir sur ça.
Ce que nous faisons, c'est la vulgarisation aussi. Hein. Et il faudrait féliciter la Radio Capi pour ces occasions qu'il donne pour vulgariser, faire comprendre. Le grand problème dans notre pays, c'est vulgariser des lois. Il y a l'autre qui a parlé que des lois sont votées, ne sont pas promulguées. Non, il a parlé de promulgation.
Il n'y a pas de problème, on va y revenir. D'accord pour nous. De retrouver Jadot qui est à Loubero, dans le Nord Kivu. Jadot, bonjour.
Bonjour Marcel Gompo, bonjour l'invité pour ce thème très très intéressant parce que ça nous regarde ici en territoire de Loubero. Je suis à Masereka, en territoire de l'Ouest, province du Nord Kivu. En fait, je voudrais juste vous présenter l'état des lieux de l'environnement ici. Vous savez, la principale ressource de à territoire, parce que nous ne connaissons pas l'électricité, bon, les panneaux solaires, on les connaît moins par rapport à notre revenu, et les gens utilisent le bois de chauffe pour cuire les aliments. On utilise le bois pour faire des portes, pour faire, même pour construire. Et aussi, il y a un problème, c'est le problème d'espace où il faut cultiver. Et vous trouvez que là où on peut avoir une étendue de terre pour déboiser la forêt. Alors moi, je voudrais poser la question de savoir, le processus REDD pour protéger l'environnement qui a été à Mambasa et Sangui, dans la province orientale, comment est-ce qu'elle est envisagée dans l'avenir? Est-ce que le Nord Kivu, le territoire de l'Ouest, sera-t-il concerné ou qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons vu le ministre de l'Environnement être dans la conférence de Copenhague au Danemark où on a projeté investir dans les pays qui ont encore la forêt qui régularise l'environnement au niveau mondial, notamment les forêts du Congo. Où en est-on avec ce genre d'investissement? Voilà au moins mes petites questions, mais il faudrait qu'on sache que, en fait, les grands pollueurs payeurs, cette formule doit aussi quand même être, et aussi la gestion dans ce genre de projets. Voilà au moins mes questions, Marcel Ngongo. Nous sommes ici au Nord Kivu.
Merci, Jadot. Vous appelez donc de Loubero, dans le Nord Kivu. Nous restons dans cette même province, mais cette fois-ci, on va aller à Boutembo pour donner la parole à Kasereka. Kasereka, bonjour. Bonjour Kasereka. Bonjour. On vous écoute Kasereka.
Oui, je suis Kasereka. Je suis Kasereka Kazi Bido de tout Boutembo.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais demander ceci auprès de notre invité.
Allez-y Kasereka, vous avez la parole. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez demander à l'invité?
Il y a moyen de faire revivre la biodiversité traditionnelle perdue. De quelle manière? Comment maintenir la biodiversité face à la mondialisation actuelle? Quel service de l'État s'occupe de la régulation de cette biodiversité? Comment cet État agit pour la maintenance de la biodiversité? J'aimerais aussi demander si comment privilégier la maintenance de la biodiversité dans notre pays?
Merci Kasereka. On va retrouver Derek qui est à Kalemie dans la province du Katanga. Derek, bonjour. Derek n'est pas avec nous. Jean-Pierre Béadi. Bon, on va poursuivre en tout cas avec avec des questions des auditeurs. On était en train de parler de, vous avez parlé de la vulgarisation, c'est qu'on est en train de faire, c'est aussi une façon de sensibiliser. Mais il y a un auditeur qui a demandé en dehors de la radio, quelles sont d'autres façons qu'on peut utiliser pour sensibiliser la population par rapport à la préservation de la biodiversité.
Oui, nous sommes dans un pays avec des gouvernements, avec un gouvernement. Au sein du gouvernement, il y a les ministères de l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Il faut retenir ça. Environnement, conservation de la nature et tourisme. Donc, dans ces ministères, il y a l'Institut de conservation de la nature, qui est doté d'une personnalité juridique qui gère les parcs nationaux les eaux botaniques, les eaux...
L'ICCN, l'Institut Cambodgien pour la
conservation de la nature. Oui. Et nous avons des parcs nationaux, nous avons des jardins botaniques, nous avons des jardins zoologiques. Et dans ces ministères, il y a des lois et des réglementations et qui doivent être appliquées. Nous en parlons ici parce qu'il y a parfois des dérapages. Donc, le monsieur nous a parlé de la biodiversité perdue. Je ne sais pas par là, qu'est-ce qu'il veut par la biodiversité perdue.
Il y a certaines espèces qu'on ne retrouve plus parce qu'il y a, vous savez également, il y a des espèces qui sont protégées. Mmh. Mais les gens, puisqu'ils ont besoin de la viande...
Le problème, c'est qu'il y a des parcs nationaux. Les parcs sont créés parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des espèces qui peuvent être victimes de braconnage. On a créé des parcs. Il y a des jardins zoologiques. Au fait, ce sont des écosystèmes artificiels créés pour permettre à ces différentes espèces de se reproduire ou bien d'être pérennisées. Alors, donc, c'est pour dire en bref que c'est des principes, c'est des règlements. Il y a un ami qui a parlé tout à l'heure de code forestier. Dans la code, nous avons parlé ça la fois dernière. Dans la code forestier, il y a toutes ces lois-là qui demandent aux exploitants forestiers de respecter la biodiversité. Alors, la biodiversité naturelle. Donc, ce qui est naturel, c'est les êtres vivants qui sont de la nature. Cette diversité existe. Mais le grand problème, c'est l'exploitation de l'homme. Quand quelqu'un va prendre les chenilles dans la forêt, il n'a pas abusé. C'est sa ressource. Et quand quelqu'un va chercher les champignons sur les arbres, il n'a pas abusé. Mais c'est le problème, c'est que l'exploitation industrielle anarchique qui fait que certains arbres qui peuvent porter les champignons ou porter les chenilles vont disparaître. Donc, il faut que l'État prenne des dispositions compte tenu de cette dégradation ou la diminution de la biodiversité. Créer des parcs nationaux, créer des jardins zoologiques pour permettre à nos enfants de voir des éléphants ou des animaux sauvages, ainsi de suite. C'est l'État qui doit prendre ces dispositions-là. Mais il y a aussi un problème, il faut coopérer aussi avec la population locale. Il ne faut pas que l'État vienne dans un endroit et dise, écoutez, il coupe, il fait des parcelles, il dit, ça, ce sont des aires protégées. Mais il faut coopérer. J'ai lu quelque part, l'État coopérer avec les autochtones, en disant si vous trouvez quelqu'un, un braconnier qui tue un éléphant, il faut les dénoncer. Quand vous les dénoncez, vous savez, on vous donne quelque chose. Mais des moyens sont un peu limités et c'est ça les grands problèmes. Donc il faut que l'État coopère avec les autochtones.
Mais prenons le cas de Jadot de Loubero qui a dit que la principale activité là-bas c'est la coupe du bois pour fabriquer de la braise, pour fabriquer des portes, tout et tout. Et comment faire pour préserver...
Non, c'est-à-dire couper les bois pour fabriquer la braise ou fabriquer les portes, ça ce n'est pas un problème.
Mais dites la principale activité de la population, c'est-à-dire que on comprend...
Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons du bois ici chez nous et nous ne pouvons pas construire des maisons en bois ou ne pas avoir des meubles? Il faudra en ce moment-là importer des bois. Non, le problème c'est quoi? On peut exploiter notre forêt, on peut exploiter notre ressource naturelle d'une manière rationnelle. Si la population augmente et que ces ressources naturelles n'augmentent pas en fonction de la population. Maintenant, il faut encadrer la population. Dire par exemple, voici telle activité, au lieu d'utiliser par exemple du charbon, voici l'électricité. Au lieu d'utiliser le charbon, voici l'énergie solaire. C'est des choses, des énergies...
Mais l'électricité, c'est encore un gros problème. Quelqu'un a d'ailleurs demandé quels sont d'autres modes de substitution pour
Ici, je parle des pistes de solutions. Ouais. Même si ces pistes ne sont pas réalisables, on peut y penser. Et on peut y penser. Si on met de l'électricité partout, les gens ne vont pas utiliser du bois. Alors, moi, je crois que le problème d'utilisation du bois ou du charbon de bois, je crois que c'est un faux problème parce que les gens doivent vivre de leur nature. Je vous donne un exemple d'un pygmée. Vous allez lui interdire de ne pas couper le bois, de ne plus chasser une antilope ou de ne plus chasser... Non, c'est dans son système, dans son écosystème, il doit l'exploiter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si nous trouvons que les grands problèmes, c'est des grands exploitants qui viennent avec des machines et des engins, ils prennent du bois et ils ne pensent pas à reboiser. C'est ça la grande difficulté. Et oui. La gestion rationnelle de cela. Nous avons tous ces instituts, s'ils ont été créés, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y a un problème de l'environnement qui se pose. Il y a des lois, ils doivent appliquer.
Il y a quelqu'un qui a évoqué le processus RED. Il y a un commentaire par rapport à ça.
Ah, le processus RED, c'est réduction des émissions par déboisement et reboisement. Là. Donc, c'est, il y a, voilà justement, à cause de, on s'est rendu compte qu'en coupant les bois, il y a des déboisements, il y a diminution de diminution de capacité de capter le CO2, de séquestrer le CO2. C'est ça le processus RED.
Oui.
Donc, plus vous coupez les bois, plus la quantité de CO2 augmente. Donc, plus vous avez la forêt, plus vous avez la forêt séquestre le CO2. Donc, lorsque le CO2 augmente, et ça pose des problèmes de changement de climat. Donc, vous voyez, il y a un lien direct entre le CO2 capté par les plantes et l'équilibre des climats. C'est ça, on a introduit ici les processus RED. Bon, ces processus RED, on a dit, il y a RED+, il y a maintenant RED++. Vous savez, les communautés ou la communauté internationale donnent beaucoup d'argent dans ces choses-là. Et les ministères de l'Environnement qui gèrent tous ces processus ou tous ces projets, et nous ne voyons pas clair, nous ne voyons pas de retombées sur le... Il y a beaucoup de réunions. Aujourd'hui,
donc si on doit se résumer, c'est-à-dire par rapport aux grands exploitants forestiers, il faut absolument respecter et appliquer les codes forestiers.
Oui.
Et pour ce qui est de paysans, il faut les aider à savoir qu'il faut couper les arbres et les replanter aussi.
Oui, il faut appliquer et respecter les codes forestiers, mais il faut qu'il y ait un suivi de l'État pour comprendre est-ce que réellement ces gens, dans leur cahier des charges, ils ont respecté ce qu'on a prévu. Et mieux aussi, il faut coopérer avec les autochtones, leur dire ce qu'il faut faire, leur apprendre des techniques, par exemple. Il y a un monsieur qui a parlé de l'agriculture dans la forêt. Il y a maintenant une technique qu'on appelle l'agroforesterie.
Oui.
On peut faire l'agronomie dans la forêt. Il y a toute une technologie et les agronomes le savent très bien. Mais il faut apprendre à ces autochtones cette technique d'agroforesterie. Et il y a beaucoup d'ONG qui s'en occupent, mais malheureusement, on ne voit pas les retombées sur terre.
Voilà, on va finir par là. Merci beaucoup Jean-Pierre Biya Diboué. Vous êtes expert en environnement et vous étiez notre invité pour commenter, pour répondre aux questions et préoccupations des auditeurs sur comment préserver la biodiversité dans une réserve naturelle. Merci et à la prochaine occasion.
Merci beaucoup Marcel.
Au Capé.